La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Si l'on me demandait de décrire tous les objets qui composent le studio radiophonique dans lequel cette émission démarre aujourd'hui et de préciser là d'où viennent tous les matériaux qui constituent ces objets, les micros, les chaises, la table ronde autour de laquelle nous sommes déjà installés, l'horloge des petits points lumineux rouges qui égrènent progressivement les secondes, les câbles, les baffles, le casque, l'écran d'ordinateur face à moi. Enfin bref, vous l'avez bien compris. Je serais bien en peine de décrire et de sourcer tout ça. Mais il y a des gens qui ont décidé de vivre dans des environnements dans lesquels, certes, ils ne sont pas capables de décrire tout cela, mais un maximum de choses, disons. Et Geneviève Pruvot est allée à leur rencontre. Ça donne un livre dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées, la subsistance au quotidien. Elle est l'invitée de l'émission cette semaine. Et c'est une artiste également universitaire, Marie Preston, qui nous rejoindra en seconde partie d'émission. Elle aussi a pour habitude de rencontrer les gens qui essayent de fonctionner comme ça, mais dans une perspective différente, artistique, qui recoupe largement celle de Geneviève Pruvot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse sociologue, vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'École des études en sciences sociales, pardon. Et vous publiez donc, je le disais, aux éditions de La Découverte, il faut saluer le geste de l'éditeur, un gros livre, La subsistance au quotidien. Compter, C-O-N-T-E-R. Ce qui compte, c'est O-M-P-T-E. On va revenir sur la forme de ce livre qui est assez particulière et très intéressante. Mais avant cela, commençons par ce qui constitue votre terrain d'enquête, une enquête singulière et en même temps, on a envie de dire classique, au fond, pour les sciences sociales. Comme je le disais, vous êtes allé à la rencontre de ceux que vous avez choisi d'appeler alternatifs. Faute de mieux, parce qu'en fait, différents mots, étiquettes sont régulièrement utilisés. Elles visent ces étiquettes à désigner un certain mode de vie, on va dire, des choix qu'ont fait des gens. Et c'est pas récent, c'est pas des phénomènes de mode, c'est des choses un peu longues. Certes, on a le sentiment que ça s'accentue peut-être ces dernières années. Pourquoi avoir choisi ce mot d'alternatif et comment qualifier ce mode de vie, Geneviève Pruvot?
Oui, en fait, les années 70 avaient leur terme avec les hippies. Aujourd'hui, on pourrait parler de néo-hippies. Et en même temps, on assiste à une efflorescence de termes. Alors, il y en a qui vont parler de décroissant, de sobriété, d'autonome, de zadiste aussi. Voilà, il y a tous ces termes qui circulent. Et en fait, peut-être à retenir, c'est qu'il n'y a pas de terme, justement, comme hippie. Et que l'avantage d'alternatif, c'est qu'on peut lui mettre des adjectifs. Donc, moi, c'est les alternatives écologiques en zone rurale, pour décrire l'enquête multisite que je mène depuis 10 ans, au sein de laquelle j'ai décidé d'isoler un échantillon particulier.
Alors il y a un mot-clé, on le trouve dans le titre, et c'est le premier mot du titre, enfin le deuxième mot du titre du livre, c'est le mot de subsistance, parce que c'est ça qui caractérise au fond principalement le choix ou les choix qu'ils font au quotidien.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont une population qu'on pourrait appeler écolo du quotidien, mais qui a pour caractéristique de mettre en œuvre des cycles de subsistance, donc qui sont en prise aussi avec un milieu de vie, des matières vivantes, et dans une perspective à la fois paysanne et artisanale, donc néo-paysanne ou néo-artisanale, parce que tous, selon les trajectoires des uns et des autres. Et donc cette subsistance, elle ne touche pas que la question agricole, mais c'est aussi construire différemment, vivre dans d'autres types d'habitats comme l'habitat léger. C'est aussi prendre en soin une éducation alternative. On pourrait y revenir avec les expérimentations de Marie Preston. Et c'est aussi faire groupe autrement, faire collectif autrement.
Ces gens, vous êtes allés à leur rencontre dans différents endroits en fait du pays avant de décider de porter un zoom particulier sur ce que vous appelez une maisonnée. Vous allez nous expliquer ce que vous entendez par là. Mais le fait d'avoir regardé différents types d'expériences dans différents endroits géographiques avec des gens qui ont des caractéristiques différentes d'âge, par exemple, ou de métiers précédents, de trajectoires de vie, au fond, vous a permis sans doute de mieux comprendre ceux vers lesquels vous avez après choisi d'orienter votre regard.
C'est vrai que moi, avec mes outils de sciences sociales, je commence par faire des récits de vie, faire un tour de France, collecter beaucoup d'expériences distinctes avec des niveaux d'engagement municipaux, collectifs, situations pacifiées, situations en lutte, voilà. Et puis, toujours avec une question qui était, mais la subsistance au quotidien, comment c'est possible? Et donc, à un moment donné, je me suis dit, par mes outils d'observation segmentée ou d'entretien, je n'arrive pas à capter une journée par exemple, qui est quand même assez difficilement figurable quand on vit pas ce mode de vie. Et donc j'ai décidé d'utiliser une autre méthode qui s'appelle, enfin qui complète les autres, hein, qui est la monographie, qui est, on est fait beaucoup en études rurales, en sciences sociales aussi. Et mais là je suis poussée un peu loin le exercice parce que j'ai fait une monographie d'un groupe, mais dans ce groupe j'ai pris deux personnes et qui vivent dans une micro maisonnée, on pourrait dire. C'est un terme que les anthropologues connaissent bien, qu'ils ont identifié, qui est très distinct de la famille. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Conceptuellement, c'est très important. La famille, c'est des personnes apparentées. Et là, le mode de regroupement, c'est pas forcément le fait d'être apparenté, même s'il y a beaucoup de personnes apparentées, mais c'est surtout le fait de partager la subsistance commune dans un lieu, pour un lieu, par un lieu, avec toutes les entités du lieu.
C'est habité, en fait.
C'est habité quelque part. Et donc, c'est un principe de cohabitation. Et cette forme-là, je l'ai trouvée aussi bien à Notre-Dame-des-Landes sur une zone à défendre que dans ces micro-maisonnées néo-paysannes de gens qui vivent en couple. Ils semblent vivre en couple à seulement des êtres humains, mais enfin, pour moi, ça dépend comment on met la focale. C'est-à-dire si on ajoute la cinquantaine de poules, les deux vaches, les 12 ruches, les 4 moutons, les chèvres, et tous les outillages, ça commence...
Sans compter les objets, c'est ça.
Sans compter tous les objets, ça commence à faire une maisonnée très remplie, oui.
Au fond, ces gens que vous avez choisis, avec lesquels vous avez cohabité pour mener cette enquête sur des périodes, on va revenir à la méthode que vous avez mise en place. Vous avez fini par les isoler, je le disais, au sein d'un monde assez vaste qu'on peut caractériser au fond par le fait que ce sont des gens qui cherchent au quotidien et en pratique, pas forcément de manière théorique ou idéologique, qui cherche à aller à rebours d'un long processus qui est au fond concomitant avec les sciences sociales, qui est celui de la différenciation sociale. Au fond, l'état de l'économie mondiale, la mondialisation, enfin tout ça nous fait bien sentir à quel point la division du travail est poussée à l'échelle de la planète depuis fort longtemps, ce qui nous rend incapables de savoir d'où viennent les choses et quel type de relation on peut avoir avec elles. Et c'est des gens qui, au fond, conscients de ça, plus ou moins différemment d'ailleurs, les uns des autres, essayent d'aller contre. Moi, je les ai reçus un peu comme ça, en fait.
Oui, oui, ils prennent à rebrousse-poil le torrent de la modernité incorporée. Et moi, ce qui était important, c'est que j'ai fait une double enquête. C'est une enquête à la fois dans un corpus de textes théoriques dans le précédent livre, Quotidien politique, subsistance, autour des questions d'écoféminisme et de subsistance. Et en fait, ce qui était très singulier pour moi, c'est que ces textes... résonnait complètement, enfin c'est pour ça d'ailleurs que je les ai trouvés, avec ce que j'entendais sur le terrain. Et donc se rejoue dans tous les débats de la vie quotidienne, tous les grands débats de l'écologie politique, avec des ancrages plus écoféministes, plus libertaires, plus paysans, enfin avec beaucoup de mouvances différentes. Et donc l'idée c'était de penser ces deux livres en binôme et de rendre compte comment en pratique ces grands débats sont totalement, enfin organisent en fait la vie quotidienne, et donc ça irrigue complètement en fait, sans nécessairement avoir tout le corpus de textes en tête. C'est juste pour dire que nos vies en fait engagent politiquement, attaquent à chaque instant en fait toute une série de choix à la fois d'arbitrage qui sont théoriques, politiques et pratiques. Voilà comment ça s'est j'ai organisé ces deux ouvrages.
Alors quelle est cette maisonnée, qui sont ceux qui et celles qui la composent, et comment vous l'avez choisie? Peut-être vous pouvez situer un peu. C'est anonyme. L'enquête est anonyme. Il ne s'agit pas de retrouver où c'est, etc. Mais c'est important d'avoir un certain nombre de caractéristiques géographiques. La façon dont cette maisonnée, elle vit pas hors sol. Elle est très reliée à beaucoup de gens sur un territoire relativement proche. Comment vous la définiriez?
Alors, c'est à la fois des personnes, on va dire, ordinaires, mais dans les alternatives écologiques rurales que j'ai explorées, et en même temps qui concentrent à L2 un nombre de postes d'activité qui est quand même assez important. Et donc, tout le monde n'a pas ce niveau de concentration de savoir-faire boulanger, savoir-faire
tracteur. Oui, parce qu'ils sont boulangers,
ils sont boulangers et paysans. Et donc, pour moi, tous les deux sont boulangers et paysans. Ils travaillent à quatre mains.
Même si officiellement, il y en a un qui est boulanger et l'autre paysan.
Et l'autre, voilà, les statuts ensuite se répartissent, mais ils travaillent véritablement ensemble, même si c'est plus compliqué que ça. Ils ont chacun aussi leur poste. Et donc, ils sont à la fois dans un travail qu'on pourrait qualifier à domicile, mais donc ils semblent être sur leur terrain, leurs hectares, mais en même temps, ils vivent en synergie complète avec un groupe de copains avec lesquels ils ont partagé des moments de vie importants sur un champ collectif dans une expérience précédente. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était les liens rhizomatiques, en fait, indissolubles, avec lesquels cette expérimentation qui ne semble être le fait que de deux personnes est en fait le résultat d'une entraide très forte, à la fois avec des copains alternatifs, des voisins qui ne sont pas forcément alternatifs, des gens du coin, donc, que j'ai aussi qualifié les bio du cru, et puis aussi de la famille qui est pas si loin. Et cette particularité, la particularité de ce groupe, c'est aussi pour saper un peu les stéréotypes qui parcourent sur des néo-ruraux venus de la ville et puis qui découvriraient un territoire, c'est qu'ils viennent du coin. Voilà, c'est pas des personnes venues d'ailleurs.
Comment ont-ils atterri là ?
Ben, leurs parents ont déjà atterri là. C'est en fait ils sont là et ils ont leur trajet socio-démo. Enfin, mais ça c'est un point commun avec plein d'alternatives écologiques que j'ai rencontrées, c'est d'avoir fait un grand voyage dans les pays du Sud notamment, pas avec une perspective néocoloniale de nous leur apprenons la mode, mais au contraire d'apprentissage de ces gestes élémentaires.
Donc c'est ce comparatisme au fond pratique qui les a un peu transformés.
Voilà, ce qui veut dire on peut vivre sans le monde de la production-consommation dans des sociétés d'abondance, donc pas du tout un regard misérabiliste. Est-ce que je continue à vivre dans les pays du Sud où j'essaie de faire avec les moyens du bord dans les sociétés post-subsistance et anti-subsistance dans les pays du Nord. Et donc se réinstaller à l'endroit où on a grandi, c'est une des spécificités de ce groupe de Valonde. Mais il y a toujours ce lien très fort parce que c'est des populations qui pensent à la fois avec les gens du coin, les proches, mais aussi avec les pays du Sud dont ils ne souhaitent pas reconduire l'exploitation au motif qu'ils seraient invisibles et qu'ils construiraient à bas bruit notre progrès en nous fournissant tous les équipements. Donc c'est comment se déprendre de cette mondialisation de la consommation sans non plus tout réinventer puisque la chaîne des métiers artisanaux de toute manière a été interrompue. Donc ils peuvent pas, c'est pas de l'autarcie.
Vous parlez de ce grand voyage qui est un élément important d'une socialisation, mais quand même tardive. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut repérer plus tôt dans leur socialisation qui permettraient d'expliquer aussi ce choix ?
Alors tout à fait, et là il y a quelque chose autour de la socialisation à la vie rurale, qui est très important. Moi j'ai fait des calculs de combien viennent, ont des parents agriculteurs, des grands-parents agriculteurs, il y en a plus que la moyenne en fait nationale, donc, et qui ont vécu par ailleurs à la campagne, ça aussi ça pèse. Et donc ce n'est pas un retour à la campagne, c'est peut-être une autre campagne, mais il y a une connaissance quand même de la sociabilité rurale, puisque effectivement l'entraide qui est réactivée par les alternatives se fonde aussi sur
des pratiques anciennes
et toujours
qui existent toujours
dans les campagnes. Donc ça c'est un autre point décisif.
Alors, vous avez choisi de passer du temps avec ces deux personnes et leur entourage, au sens le plus large du terme. Et vous l'avez fait d'abord de manière classique, vous parliez de monographie, en réalisant une ethnographie. Mais en poussant au bout, finalement, cette technique. C'est vrai que quand on a déjà fait de l'ethnographie soi-même, on est souvent saisi par une sorte de vertige. Au fond, on se dit mais comment je peux tout saisir? Comment je peux être sûr de rien rater? Et donc pour lutter contre ce vertige, on a tendance à vouloir tout écrire ou enregistrer ou filmer. Désormais, c'est plus facile qu'autrefois. Et voilà, vous êtes parti dans une écriture frénétique au fond de tout ce qui vous entourait.
Oui, j'ai dit que c'était une expérimentation graphomaniaque. Et le livre s'en fait l'écho, puisque je suis arrivée sur le terrain avec une méthode d'enquête qui a été forgée par Alain Cottreau. Et donc, on a un atelier d'ethnocomptabilité, donc dans lequel, sur différents terrains, nous avançons les uns les autres en ajustant cette méthode à chaque terrain d'enquête qui est différent, mais qui part du principe qu'il faut compter ce que les gens comptent et compter ce qui compte. Et donc, on inclut des éléments de quantification ordinaires en se disant que les personnes ont un monde de références avec lesquelles ils évaluent en permanence leur action par rapport à d'autres et que la question de la circulation des matières, leur prix, leur provenance, d'où ça vient, pour caractériser des populations dont l'enjeu est d'être, comme ils disent, locavore, c'est-à-dire de vivre en circuit court, c'est évidemment ce genre d'arbitrage qu'ils ont sans cesse en tête, sauf que je peux pas être dans leur cerveau. Donc même s'ils sont très bavards et qu'on peut discuter et ils expriment ce souci-là. Et donc on a mis en œuvre une expérimentation ensemble qui est de les pister à la trace, minute par minute, kilomètre par kilomètre. Je consigne tout ça, les verbatims, ce qu'ils me racontent, mais aussi on fait des séances entières d'inventaire où ils me donnent les prix, les provenances. Et d'emblée, je savais que je ferais 3 restitutions de ce matériau qui était proliférant et très riche. C'était un récit pour rendre palpable, visible, sensible, le trajet, les déambulations quotidiennes, comment ça, on arbitre tout ça de façon concrète. Donc, mais en maximisant ce qu'on pouvait dire sur une journée, donc c'est 200 pages pour 9 jours, c'est un peu le contraire de ce qu'on fait en ethnographie. On prend
oui, c'est ce que j'allais dire. D'habitude, les anthropologues, les ethnologues vont passer des années et des années sur un terrain, les notes sont éparses, enfin sans doute en ont-ils beaucoup, mais ce qu'on retrouve dans les livres, en fait, c'est vraiment un choix, une sélection très... C'est un petit peu les bonnes phrases, on dirait, ou les petites phrases. Vous faites l'inverse. Vous travaillez sur 2 fois une semaine et tout y passe, quoi.
Alors, j'ai fait plus de séjours, j'ai fait des entretiens, je reviens. Mais le projet narratif, c'est vraiment, surtout qu'ils sont 2, donc je ne peux pas les suivre les 2, donc il faut faire des restitutions. Ils sont 3 avec leur petite fille et plus tout. Mais c'était aussi de rendre compte ces fameux, ce qu'on dirait, les temps creux, mais qui ne sont pas creux en fait. La quotidienneté, elle n'est pas faite que de temps forts dont on se souviendrait et que la mémoire étant sélective. Donc moi, je suis une scribe et une scribe qui doit en plus donner à lire un mode de vie qui n'est pas familier à tout un lectorat. Donc je suis obligée, j'ai pris des photographies, je suis obligée donc de faire plus de descriptions que dans d'autres, peut-être dans d'autres terrains plus familiers. Et ensuite, ils savaient, et nous savions que nous allions produire le même récit, mais d'une façon chiffrée et avec des inventaires. Donc, il y a 60 pages de tableaux et je remercie mais tellement infiniment toute la maison d'édition d'avoir accompagné ce travail de...
Oui, parce que, bon, je disais, pour commencer, le livre est très, très impressionnant. Il fait, alors, j'ai pas regardé exactement presque 500 pages. Mmh. Et en fait, il est composé en 3 parties. Une première partie qui est contée au sens du récit, vous raconter ce que vous avez observé. Ensuite, compter, cette fois avec les chiffres et des tableaux. Donc, il y a une partie conséquente de tableaux. Enfin, je dis juste. En fait, ces tableaux sont extrêmement riches, denses. Ils ont dû être complexes à élaborer, à remplir. On va revenir sur tout ça. Et puis, enfin, il y a une partie qui est sans doute la plus classique. On peut se dire qu'un éditeur qui n'est pas aussi courageux vous aurait encouragé à ne publier que celle-là, c'est-à-dire une partie d'analyse plus classique de sciences sociales, au fond, qui s'appuie sur les 2 premières parties pour proposer des hypothèses, des explications. Donc, d'où l'idée qui est présente dans ce sous-titre, compter ce qui compte, puisque il y a les 2 manières de compter dans votre livre, en fait.
Oui, c'est en fait aussi dans une perspective de faire dialoguer ce qui semble être des sources différentes, mais qui ne se comprennent que les unes par rapport aux autres, et aussi de comprendre autant de manières d'expliquer en fait un terrain d'enquête comme des outils de visualisation différents qui s'adressent aussi à des sensibilités cognitives différentes. Et je sais qu'il y en a qui vont immédiatement aller
ouvrir
les tableaux et découvrir que c'est un monde en soi, puisque ces tableaux ont énormément de textes. Je tiens à le dire, c'est des formes. Pour moi, c'est des formes de récits à part entière.
Tandis que c'est du code en fait. Il faut rentrer les choses dans les cases.
Donc il faut rentrer les choses dans les cases et ça a été effectivement un outil d'enquête, hein, parce qu'il fallait que je remplisse ces cases. Et il y a plein de cases qui évidemment ne sont pas remplissables parce que pour moi, d'aller jusqu'au bout du chiffrage, c'est donner à voir l'inquantifiable. C'est-à-dire comment par le chiffrage montrer tout ce qui ne va pas rentrer dans le tableau. Ces tableaux excèdent les possibilités de comptage. Et puis de toute manière, c'est de ça dont il est question au bout du compte. Les modes de vie sont incommensurables. La matérialité des existences n'est pas pistable, n'est pas traquable. C'est le capitalisme et l'industrialisation qui essaient de faire ce travail de mise en case.
Bon, ça, c'est le paradoxe. On pourrait vous dire, mais pourquoi vous voulez à tout prix mettre en chiffres, mettre en tableau précisément l'activité de gens qui fuient ce monde qui est celui de l'évaluation permanente avec des critères chiffrés, de gens qui n'essayent pas de prendre en considération la complexité, l'humanité des dimensions.
Mais en fait, c'est aussi un reclaim du chiffrage ancré, situé dans ce qui compte pour les gens. C'est vraiment le principe de l'ethnoconsultation. comptabilité, c'est pas de partir hors sol avec une grille universelle, mais de voir la manière dont eux ils conçoivent, ils et elles conçoivent le monde. Et à partir de là, c'est bien évidemment qu'un agriculteur, il a des kilos en tête. En fait, c'est un art de la précision. C'est pas parce qu'il y a des comptages à la louche que c'est pas précis, et parce qu'en fait, il y a de la vie d'être vivant en jeu. Et donc, si on change pas de parcelle au bon moment, les vaches, elles ont plus rien à manger. Donc, en fait, il y a quand même un savoir-faire d'anticipation qui est très, très important. Et c'est aussi rendre visible ce travail invisible et produire d'autres chiffres qui sont qui sont aux antipodes de ce que l'économie politique peut fournir. Parce que là, c'est des chiffres en plus vérifiés, concertés, retravaillés et dont on sait qu'ils sont infinis.
Alors au fond, c'est une manière aussi de montrer que les mots sans les chiffres, ou l'inverse, les chiffres sans les mots, ça n'a aucun sens.
C'est exactement le principe. Vous avez défini l'ethnocomptabilité. Donc c'est exactement ça qui se passe. Et donc ça plaide aussi pour continuer à travailler formellement en fait sur l'accompagnement du chiffrage et réencastrer en fait le geste économique dans un geste social et de ne pas scinder ces opérations. Voilà, ça c'est exactement ce que ne fait pas un travail d'économie classique.
Dans quelle mesure vous avez repris à votre compte, en faisant ces tableaux, des manières de compter qui étaient déjà celles des gens que vous observiez, ou dans quelle mesure vous leur avez proposé des manières de compter auxquelles ils n'avaient pas forcément réfléchi? En gros, quelle est la place de ce qu'on pourrait appeler des ethnométhodes de ces acteurs sociaux que vous avez observés, Geneviève Pruvot?
Moi, j'ai systématisé la comparaison au prix sur le marché bio, que eux ont en tête, mais voilà, donc ça c'est une opération systématique qu'ils ne fournissent pas. Et par ailleurs, l'enjeu pour moi était aussi à la fois de façon narrative, analytique et chiffrée, de restituer l'énormité du type d'attention que ça implique de penser à autant de choses en même temps. Et ça, pour moi, j'ai essayé de donner une autre présentation graphique, parce que je ne peux pas rentrer dans leur tête où ils déambulent et ils pensent à tout ça en même temps. Donc j'ai essayé de représenter par un schéma, plusieurs schémas en fait, tout ce qu'ils ont, toutes les circulations de matière qu'ils ont en tête chaque fois qu'ils font quelque chose. Donc là aussi, ça a été un défi graphique de représenter cette chose-là, parce que précisément, je voyais bien que mon chiffrage poste d'activité par poste d'activité, pour arriver à la fin, au chiffre de combien il leur reste à dépenser par mois une fois qu'ils ont fait toutes leurs dépenses, tout ce qu'ils économisent avec le fait de vivre avec des trocs en nature, avec des échanges et ce qu'ils autoproduisent, ça, c'est même pas un chiffre qu'ils ont forcément. Ils savent juste qu'ils ont un peu d'économie à la fin du mois. Et j'ai presque envie de dire, ils n'ont pas besoin de mes comptes pour revivre. Et tant mieux. Enfin, voilà. Par contre, moi, j'ai essayé du coup, voyant bien que ce côté séquencé ne correspondait pas à leur façon non plus de tout voir ensemble, j'ai essayé de le refaire là pour le coup par schéma graphique.
Oui, ça aussi, c'est une façon importante de penser ces schémas, ces relations, ces flèches.
Ces réseaux, voilà, ils pensent en raison avec tout un monde animé, inanimé, avec vraiment un outillage qu'il faut penser à réparer, qu'il faut penser à récupérer. J'ai essayé de montrer le temps que ça prend aussi. Et l'autre façon que j'ai essayé de figurer ce mode de vie, qui est le tout sauf de la simplicité volontaire, qui est en fait très complexe, vu le nombre de savoir-faire à réapprendre et à triquer, c'est aussi d'être dans compter du temps. Et donc oui, moi, en termes vernaculaires, c'est des personnes qui me disent « on court ». On est baba speed, comme ils le disent, et elles le disent. Il y a des rythmes en même temps où ça ralentit, des moments d'enchantement, des moments où il faut accélérer, au contraire, des moments de découragement. Et j'ai essayé donc d'essayer, avec mes outils de sciences sociales, de compter du temps aussi, parce que c'était de rendre compte de ce rythme très particulier, mais qui est avec leur catégorie. Donc, c'est pas exactement les catégories de l'INSEE.
Quelle place accorde-t-il à la formation, à l'auto-formation, à la formation des autres, parce qu'ils ont dû, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, apprendre des savoir-faire. On ne devient pas boulanger comme ça du jour au lendemain, on n'élève pas des vaches ou on ne cultive pas des plantes comme ça non plus. Donc il y a un rapport au maniement des outils, il y a un rapport, enfin il y a énormément de techniques en fait. Tout ce monde, moi, m'a rappelé cette espèce de manuel des Castors Juniors pour Baba Cool, qui était le All Earth Catalogue de Stuart Brand, c'est-à-dire cette publication de la fin des années 60, début des années 70, qui permettait à tout un tas de gens qui étaient partis dans s'installer à la campagne aux États-Unis de savoir quelle était la meilleure pelle pour creuser un trou ou le meilleur livre théorique pour penser telle ou telle chose et la pelle et le livre théorique sont mis dans une forme d'égalité en fait.
Oui, c'est le catalogue des ressources qui a été traduit aussi il y a eu la version française et c'est effectivement une de mes sources d'inspiration aussi. Donc quelles sont les ressources qu'ils peuvent mettre en œuvre sachant qu'ils ne sont pas nés dans des familles agricoles ou artisanales. Et donc, ils ont dû apprendre.
Il y a une proximité, vous l'aviez dit, avec le monde rural, mais pas avec les savoir-faire.
Pas avec les savoir-faire, même s'il y a des savoir-faire de débrouille très importants pour Florian qui a grandi en Guyane, et c'est un point important. Pas du tout en tant qu'expat, plutôt dans la jungle, en fait. Donc ça, c'est aussi un effet important. Et l'autre chose, c'est comment apprendre ces savoir-faire. Moi, c'est un de mes résultats d'enquête de tout ce que j'ai fait depuis 10 ans dans différents lieux. C'est que, puisque ces savoir-faire ne sont pas appris majoritairement à l'école, en tout cas, pas de cette manière-là, que l'université n'est pas fondée non plus sur ce type de mélange entre savoir intellectuel, savoir pratique. Donc, l'une des forces et des alternatives écologiques, c'est de proposer une quantité de formation à tous les niveaux, à tous les étages, à prix libre, sur les week-ends, en atelier, en chantier participatif, accueil à domicile, woofer, ferme école. C'est impressionnant et donc il se passe tellement de choses et que donc eux rentrent, ont bénéficié de cette formation sur le tas, mais aussi formalisée, de la chambre d'agriculture aussi, jusqu'à des CIVAM, jusqu'à plein de types, jusqu'à se former entre pairs. Par jeu d'essai erreur et ça prend le temps. On ne s'improvise pas du jour au lendemain boulanger paysan. Donc j'arrive 8 ans après cette expérimentation là. Et donc eux de la même manière rentrent dans ce circuit et accueillent plein de visiteurs. Je fais partie en fait de la chaîne de transmission. Ce livre fait partie de l'échange de savoir. Ne prendront pas le temps à ce moment-là de leur vie de raconter minute par minute ce qui leur arrive. Donc moi c'est vraiment le contrat. Je prends des notes. Je ne participe pas l'activité, je fais pas de l'observation participante. Et donc cette formation, c'est vraiment le cœur d'une résistance en fait, d'un contre-modèle, d'une contre-société qui doit se faire sur des modes de gratuité et qui sont ritualisés aussi et qui permettent aussi des formes de nomadisme, c'est-à-dire que les gens voyagent en fait dans pas simplement en France, dans l'Europe, dans le monde entier, à la conquête de ces savoir-faire réinventés, mais aussi ajustés. À notre monde d'aujourd'hui et ça permet de trouver le bon endroit, la bonne maisonnée, le bon collectif qui correspondra à son cycle de vie où on apprend à vitesse grand V.
C'est vous-même, et c'est précisé là, en quatrième de couverture du livre, vous êtes diplômée de permaculture.
Oui, j'ai fait cette formation qui est voilà, je à la fois pour des raisons d'ethnographe qui doit savoir de quoi il en retourne, mais aussi pour ma propre mon propre usage. Et donc c'est par exemple, ils font de la permaculture sans en employer nécessairement le terme. À l'époque, il n'était pas aussi répandu. Et de la même manière, la permaculture s'inscrit dans des savoir-faire très très anciens qui sont réactivés. Et donc, c'est une politique de la parcelle. Enfin, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la permaculture a pour le jardin. Comment faire des assortiments d'activités sur des petites surfaces dont on va maximiser les possibilités. Et donc, ça s'adresse aussi à une situation foncière assez terrible dans laquelle on vit, qui fait qu'on est cantonné à des petites parcelles quand on veut ne pas faire de l'agro-industrie, dans des campagnes parce que le périurbain est complètement préempté par la spéculation immobilière.
L'artificialisation
des terres. Donc comment faire avec peu de parcelles, avec des villages désarticulés, avec la moitié des gens qui commutent avec la ville. Et donc c'est vrai que la permaculture, c'est à resituer dans ce temps historique-là. Et donc eux, ils essaient de pousser en fait ça, en essayant d'acquérir parcelle par parcelle
vous appelez la politique de la parcelle.
Oui.
On continue à parler de subsistance, de maisonnée, de pain aussi avec Marie Preston dans la deuxième partie de l'émission. C'est après un extrait d'un album à venir qu'on ne connaît pas. On ne connaît que ce morceau, un album très très attendu de Beth Gibbons qui était l'une des deux personnes et la voix de Portishead, Floating on a Moment.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Curiosity beyond life.
Parler d'une maisonnée depuis le début de cette émission avec Geneviève Fruveau à propos de son livre La subsistance au quotidien, et on va continuer à parler de maisonnée, mais on va passer du EE au ER. Maisonnée, c'est un verbe, c'est le titre que vous avez choisi pour l'une de vos expositions, en particulier Marie Preston.
Oui, maisonnée, c'est le terme que j'ai choisi pour une résidence qui a lieu en ce moment à la MJC de Montbard en Bourgogne. Et effectivement, c'est suite à la lecture de quotidien politique de Geneviève Pruveau qui m'a passionnée, qui m'a fascinée, et avec qui j'ai eu envie de travailler, enfin continuer de réfléchir. Donc, dans le cadre de cette résidence, dont la commande, en fait, la demande était de travailler autour des femmes, et comme le quotidien politique était beaucoup, enfin l'ouvrage tournait sur la pensée écoféministe, c'est dans cette perspective-là que j'ai souhaité travailler pour Maisonnée. Et effectivement, donc Maisonnée, c'est à la fois ce verbe que j'ai choisi d'employer pour travailler sur la question de la subsistance dans cette ville-là et interroger les modes de subsistance qui existent aujourd'hui. Alors, les personnes que j'ai rencontrées ne sont pas des alternatifs, mais en même temps, voilà, comment aujourd'hui essayer de par l'art, de créer des situations qui permettraient de construire, ou en tout cas de renforcer ces parentés pratiques dont parle Geneviève Pruveau.
Vous êtes artiste et vous êtes aussi maîtresse de conférences à Paris 8, et vous travaillez dans votre pratique artistique de manière très relationnelle au fond avec, en l'occurrence, les gens pour cette résidence, mais de façon plus générale. Ce qui est intéressant, là vous dites, ces gens ne sont pas des alternatifs. En fait, Geneviève Pruveau, dès le début de son livre, dit attention, il n'y a pas deux types de personnes dans le monde. En fait, ce sont des questions qu'on peut être tous et toutes amenés à se poser de plus en plus, et les alternatifs, même les plus radicaux, ne parviennent pas à être totalement dans le locavore ou la subsistance, et de la même façon, ceux qui dépendent davantage de la mondialisation peuvent essayer de faire des efforts.
Ah oui, non, mais tout à fait. Oui, non, c'est-à-dire que les personnes ne correspondent pas, disons, à la sociologie dont il a été question auparavant.
Mais ce sont les mêmes questions sur lesquelles vous avez travaillé.
C'est ça. Par l'intérêt sur le quotidien et les pratiques de subsistance, voir comment certains gestes... Enfin oui, c'est ça. Penser les gestes que l'on fait à l'aune de la manière dont vous décriviez le studio, par exemple, pour introduire cette émission. Ce qui nous a amené, en fait, dans le quartier. Enfin, il y a plusieurs aspects, hein, dans la résidence maisonnée au Faubourg. D'ailleurs, c'est important peut-être de dire qu'on a commencé en faisant une lecture collective en arpentage du livre de Geneviève Pruveau, ce qui nous a permis déjà d'avoir des connaissances communes sur ces questions-là. Et ensuite, avec un autre aspect, est un aspect qui concerne un quartier dans lequel il y a des zones maraîchères, un ancien lavoir, enfin, il y a des lieux qui racontent un monde antérieur à la société de consommation, avec des personnes qui y vivent, qui l'ont connu enfant ou jeune adulte, et qui peuvent raconter ça. Et donc voilà, déjà refaire émerger ces savoirs anciens, plutôt comme une histoire orale à partager, et voir dans le quotidien aujourd'hui, enfin voilà, de ces personnes, comment ils peuvent être réactivés, notamment par des jardins partagés, parler ou faire parler le lavoir, qui, on ne cesse de me le dire, a beaucoup de choses à raconter, puisque c'est un lieu de parole, par exemple.
De rencontres et d'échanges. Autre écho avec le travail de Geneviève Pruvot, peut-être organisé là aussi, cet écho, le pain. Un autre de votre travail s'appelle le pain commun. Vous avez travaillé sur le levain en particulier.
Oui, alors ça par contre, ça a été une découverte quand on s'est rencontrés, cet intérêt commun pour le pain. En 2018, j'ai, à l'invitation d'un centre d'art de Saint-Denis, été invité et décidé de travailler autour du pain. Et un groupe s'est constitué de 8 personnes, des femmes, avec qui on a mené l'enquête sur les pratiques boulangères aujourd'hui, plutôt en milieu urbain et en banlieue parisienne. On a, donc ça se construisait en deux temps. Dans un premier temps, expérimenter ensemble, faire du pain, apprendre ensemble à en faire finalement, avec tout ce qu'on trouvait comme outil à disposition, et également rencontrer des professionnels qui avaient des pratiques de boulangerie qu'on pourrait appeler des néo-boulangers, boulangères, qui travaillaient pour la plupart avec du levain naturel et qui également faisaient du pain avec des blés paysans. Et donc, ce travail artistique coopératif m'a mené à rencontrer une biologiste, microbiologiste, Delphine Sicard, qui monte depuis plusieurs années des projets de recherche participative en sciences, avec des paysans, paysannes boulangères, des artisans, mais également des formateurs et des formatrices, et puis évidemment des microbiologistes, pour penser, essayer de réfléchir à la microbiologie des levains et leur biodiversité. Et donc elle m'a, là depuis deux ans en fait, embarquée dans un projet vraiment passionnant qui s'appelle Le Vin, effectivement, et qui réunit donc ce groupe de personnes qui est à l'échelle nationale et qui où moi j'interviens en tant qu'artiste. Et où on réfléchit donc à, enfin, on essaye de travailler une question qui est celle de définir en quoi l'environnement et l'histoire du fournil a un impact sur la biodiversité du levain. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la maisonnée, c'est-à-dire que le levain, on sait que sa spécificité microbienne vient des mains du boulanger, de la boulangère, mais également de ses outils en bois, mais on ne sait pas à quel point la maisonnée du levain s'étend au-delà du fournil. On ne sait pas s'il maisonne avec les chênes, les chèvres, les voitures en milieu urbain. Enfin, voilà, comment se constitue ce microbiote. Et donc voilà, ça c'est un aspect du travail artistique, mais il y a aussi tout un aspect aussi sur les réseaux de passeurs, ce qui fait écho à ce que Geneviève Pruvot disait sur la manière dont la transmission est un point fondamental. Dans le projet, il y a aussi la volonté de construire un réseau de passeurs sur l'expérimentation au fournil, sur les savoirs, sur les savoir-faire et également les savoirs scientifiques développés pendant le projet. L'idée aussi de définir ce que c'est qu'un terroir boulanger et les typicités des pains. Et enfin, de construire notre co-gouvernance et nos créations collectives.
Geneviève Pruvot, comment vous envisagez la place et le rôle des artistes dans ce type de connaissances, au fond, parce que l'art apporte d'autres manières de connaître, au fond, ce sur quoi vous avez travaillé avec vos outils et méthodes qui sont celles des sciences sociales.
C'est fondamental parce qu'en fait, en plus, on a une idée parfois ascétique ou alors complètement politique, programmatique, dogmatique, qui est le contraire de ces modes de vie qui sont dans l'expérimentation permanente et qui, de toute manière, aussi sont dans des co-créations. Et je trouve que le travail de Marie Preston est vraiment exactement à cet endroit-là, co-création de la transmission, mais co-création des matières. Et du coup, il y a aussi parmi les populations, les alternatives, des artistes, en fait, mais qui seront du côté de la danse aussi, de la musique, du théâtre et puis des arts plastiques aussi. Donc c'est une continuité, en fait. On est boulanger, paysan, artiste, enfin voilà, et Marie Preston, mais voilà, et scientifique, voilà. Et je trouve qu'on travaille dans c'est l'interdisciplinarité ou transmission, en fait, qui
est imprimée. Mais de façon très très concrète. Et ce qu'il y a de commun dans, dans votre travail, je trouve, c'est la, la façon d'engager, au fond, ceux avec lesquels, alors, soit ceux qu'on observe quand on est chercheuse, soit ceux qui sont normalement destinés à être les regardeurs des œuvres, si on reste dans une conception classique de l'art, Marie Prestin.
Ah oui, oui, tout à fait. Ben, effectivement, c'est en tout cas la spécificité de la manière dont je travaille depuis bien longtemps, qui est de penser l'art en collaboration, en coopération avec les personnes rencontrées. Et il y a une dimension ethnographique dans ce travail artistique que j'avais découvert, renforcé grâce à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, qui m'avait vraiment aidé à construire tout ce rapport, par exemple, au collectage de récits de vie, à l'implication des personnes, à la dimension éthique, qui participe de la discipline ethnographique et de l'art coopératif et de co-création, que j'essaye d'ailleurs de distinguer ce qu'on a fait avec Céline Poulain et Stéphanie Hérault dans un livre qui s'appelle Co-création, les différentes modalités en fait de participation des personnes engagés, impliqués dans les processus de création. Et alors, finalement, ce qu'on appelle co-création est le moment où, dès la genèse du projet, de l'expérience, celle-ci, dans sa dimension artistique ou autre, finalement, est pensée avec les personnes qui vont s'y impliquer. Et c'est ce qui s'est passé dans le projet de recherche participative, c'est-à-dire qu'on a passé un an ensemble à définir notre question de recherche. La question dont je vous parlais, elle a été définie à l'issue d'un an de rencontre. Mais par contre, d'un point de vue artistique, il me semble que ce serait malhonnête de dire qu'on est exclusivement dans la co-création, puisqu'on est finalement toujours, comme le processus créatif est en devenir et tout le temps en prise avec l'humain et le quotidien, eh bien on varie dans des situations de coopération où je serais peut-être plus directive sur certains aspects, et puis soudain l'implication est bien plus collective et on est dans la co-création. Et c'est comme ça tout ce travail relationnel consiste à accompagner le mouvement des rencontres et de ce qu'on élabore collectivement.
Vous diriez la même chose avec la façon dont vous avez travaillé avec ceux qui sont au cœur de ce livre, que vous signez toute seule, parce que vous avez fait des choix, vous avez décidé de présenter les choses de telle façon, et vous en êtes responsable. Mais en même temps, tout ça n'aurait pas été possible s'il ne s'était pas prêté au jeu, en quelque sorte.
Tout à fait. C'est un jeu auquel nous nous sommes prêtés ensemble. Et ensuite, il y a une division du travail, malgré tout, qui s'est opérée au sens où je dois être réaliste. Ça, c'était un contrat, c'est-à-dire ne pas présenter d'éléments enchanteurs et donc être au plus près de leur expérimentation. Et ensuite, on a vraiment eu des séances entières, comme je disais, d'inventaire. Donc ça, ils révisaient, en fait, mes tableaux. Mais la partie finale m'appartient, au sens où c'est aussi à un moment donné un détachement de leur personne, aussi via le travail d'anonymisation, qui est un travail d'anonymisation contrôlé, au sens où moi j'ai quand même une centaine d'autres récits de vie, beaucoup d'autres lieux, donc je suis en mesure de faire les choix pertinents, parce que ce n'est pas non plus la Valande n'existe aucune carte. Et il y a aussi la question éthique, moi par exemple, la question de ce livre, tous les fonds, quand vous achetez ce livre, j'ai cédé tous mes droits à la Via Campesina, enfin l'association française de ce réseau paysan. Donc il y a l'idée que la terre, ce qui vient de la terre, des gens de la terre, retourne aux gens de la terre. Voilà, donc c'est aussi ce processus-là qui fait que ce livre ne m'appartient pas de ce point de vue-là.
Moralement, oui.
Voilà, moralement, oui. Et c'est donc ma lecture. Le fait de mettre à disposition toutes ces données, c'est une invitation à d'autres collectifs, d'autres groupes, de retravailler, voire de refaire d'autres interprétations que celles que je propose.
Vous citiez tout à l'heure d'autres disciplines artistiques, la musique, le spectacle vivant, etc. J'ai pas entendu la littérature. Est-ce qu'on a l'impression qu'elle est un peu à part, non pas qu'il n'y ait pas des écrivains qui aillent un peu dans ce sens et proposent des récits, je pense au travail d'Arnaud Bertina dans La Creuse récemment, etc. Mais bon.
Oui, puis il y a Marie-Hélène Lafont. Enfin, il y a des tas de choses aussi comme ça qui... moi, c'est vrai que j'ai fait des études de littérature avant de faire de la sociologie. Et donc, à partir de, je trouve que l'ethnographie et cette manière-là d'écrire, en tout cas, me permet de remettre au centre de la pratique de sociologue le récit. Et je pense que là, c'est une façon de faire dialoguer, en tout cas, expérimentation littéraire et de sciences sociales, de sortir de cette division. Et je trouve que travailler avec Marie Preston, ça participe complètement de ces porosités-là.
Pour vous, l'écriture est juste un médium en plus des autres, en tant qu'artiste?
Ah, moi, j'écris beaucoup et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc oui, c'est un médium important, à la fois dans le travail artistique, justement, pour maisonner à mon bar. J'ai fait tout un travail d'envoi, on pourrait dire de mail art, d'envoi de papillons, de gazettes qui retranscrivaient des récits collectés, partagés, des discussions. Donc il y a tout ce travail d'écriture, mais vraiment lié à l'oralité, hein, qui est en jeu. Et puis j'ai un travail d'écriture aussi qui est celui du travail plus lié au travail universitaire et à la transmission des enjeux de la pratique artistique, en particulier de co-création.
Merci Marie Preston. Donc il y a cette exposition en ce moment, Maisonnée.
En fait, il y a une exposition qui s'appelle...
Résidence.
Voilà, c'est ça. Maisonnée. Mais il y a une autre exposition, ouais, effectivement, qu'il faut mentionner, qui s'appelle Kumpanis, qui se trouve à Montbéliard et qui expose le travail d'artistes qui travaillent autour du pain et qui est formidable au 19 Crac.
On met les informations sur la page de La Suite dans les idées, où vous trouverez également la référence au livre de Geneviève Pruvot dont nous parlions aujourd'hui, La subsistance au quotidien, Compter ce qui compte, livre qui paraît dans la collection L'horizon des possibles aux éditions La Découverte. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Juliette Mouélic, à la technique aujourd'hui, Mélodie Hessmann, à la réalisation, Cassandre Puel.